Alors bonjour à tous et merci de votre présence. Nous allons donc commencer cette réunion. Tout d'abord, avant de nous présenter, je voudrais rappeler à ceux qui en ont un de ne pas oublier de rallumer leur téléphone en sortant de la réunion et donc de ne pas oublier de l'éteindre dès maintenant. Merci. Je vais maintenant vous nous présenter. Alors, Anne Zanditelas. Qui est, comme vous le savez, candidate pour lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs dans cette élection législative partielle. Elle est enseignante et porte-parole régionale de lutte ouvrière. Moi-même, Christelle Leblon, qui suis sa suppléante et suis médiatrice en collège au chômage. Et enfin, notre camarade... notre camarade Nathalie Arthaud, qu'on ne présente plus. Qui est la porte-parole nationale de lutte ouvrière et a été candidate aux dernières élections présidentielles. Et pour commencer, je passe tout de suite la parole à Anne Zanditelas.
Je n'étonnerai personne en disant que ces élections ne changeront pas le sort des travailleurs. Ces élections partielles n'ont aucun enjeu, sauf pour celui ou celle qui rêve d'obtenir le siège. Quel que soit l'élu, rien ne sera modifié. Non seulement parce qu'un député de plus ou de moins de telle couleur politique ne modifiera pas le rapport de force au sein de l'Assemblée, mais aussi parce que le pouvoir des députés se limite au mieux à amender des textes de loi qui sont l'expression des besoins des patrons, des banquiers et des bourgeois. Ils se font les relais des exigences du patronat local. Mais dans ces élections, notre ambition est d'exprimer le rejet de tous ces politiciens de gauche comme de droite qui, une fois élus, malgré leurs belles promesses, servent les patrons et les riches. Notre ambition est d'exprimer la confiance dans les capacités des travailleurs à remettre en cause les mesures anti-ouvrières qui sont mises en place. Alors notre région a une longue tradition ouvrière. La population ouvrière de cette circonscription, comme dans tout le pays, joue un rôle essentiel, indispensable dans le fonctionnement de la société. Comme dans le reste du pays, elle se sent affaiblie du fait du cancer qui la ronge, le chômage, la précarité engendrée par la fermeture de dizaines d'entreprises et le fait que nombre d'autres aient vu leurs effectifs fondre. L'hémorragie des emplois continue. Deux Franprix viennent de fermer, l'un à Jussy, l'autre à Chauny, plus de 20 salariés menacés de licenciement. La direction a eu le culot d'annoncer la fermeture sans aucune concertation avec les salariés et les habitants, pour qui ce Franprix est le seul magasin d'alimentation de proximité. Son mépris l'a conduit à proposer aux salariés des reclassements en Thaïlande ou dans d'autres pays. La population, les salariés, se sont mobilisés, ainsi que les élus. Ces derniers ont obtenu un sursis d'un mois, le temps de trouver un repreneur pour que Jussy et ses environs gardent un magasin. À Ham, le groupe Panther a décidé de fermer l'usine de cette ville. Cette usine, qui a des commandes, qui fait des bénéfices, est rayée de la carte parce qu'elle telle est la volonté des actionnaires. Juste après l'annonce, face à la mobilisation des salariés, Xavier Bertrand, nouvellement élu à la tête de la région, s'est vanté d'avoir été jusqu'en Suisse pour discuter avec les dirigeants de l'entreprise. Alors vous le savez, son succès a été bien limité. La presse a titré que la fermeture était reportée de 2 ans, mais en réalité, les licenciements sont échelonnés et aucune garantie n'est donnée aux salariés. Les travailleurs de l'usine ont d'ailleurs tout de suite expliqué que la direction commencerait à licencier une partie d'entre eux quelques mois plus tard. Depuis, la direction a confirmé qu'elle était opposée à une reprise de l'entreprise malgré ses déclarations. Voilà comment les patrons montrent que ce sont eux qui décident. Ils se moquent des besoins de la population, des salariés qui font leur fortune. Et ils se moquent tout autant des élus qu'ils laissent se débrouiller pour trouver des solutions à la misère croissante et aux problèmes posés par leurs choix. Une fraction croissante de la population est privée d'emploi et condamnée au chômage depuis des années. Nombre d'entre nous, dans les quartiers, ne savent même plus ce qu'est un emploi stable. Au mieux, ils ont accumulé des contrats intérimaires, des contrats aidés de 20 heures, de 24 heures, des contrats de quelques heures non choisis, etc. Certains ont déjà été licenciés une fois, deux fois, voire trois fois. Alors, quelle sécurité donne le fameux CDI, contrat à durée indéterminée ? On nous parle sans cesse de ces travailleurs privés d'emploi à qui on propose des stages pour apprendre à se lever le matin. Mais les politiciens de droite comme de gauche ont un sacré culot, eux qui ne connaissent pas le chômage et qui ont des carnets d'adresses bien remplis. Ces propos sont l'expression de leur mépris envers ceux qui ont perdu leur emploi et se battent au quotidien pour ne pas perdre espoir. Comme ils n'ont aucun moyen d'enrayer le chômage sans s'attaquer à la bourgeoisie, eh bien ils s'attaquent aux chômeurs et cherchent à diviser le monde du travail. Le règne de la précarité est organisé à Saint-Quentin, en particulier au travers d'une association qui met en lien des employeurs, qu'ils soient publics, privés ou particuliers, et des travailleurs qu'il faut soi-disant réinsérer. Résultat, ces travailleurs obtiennent des revenus inférieurs au SMIC et courent d'un employeur à l'autre. Ce passage par cette association est censé être temporaire, mais nombre d'y salariés y sont depuis 2 ans, 3 ans, voire 6 ans, avec la perspective de continuer. Certains, parmi les travailleurs, se sont habitués à vivre avec une allocation, se sont découragés devant le refus des employeurs de les embaucher parce qu'ils n'avaient pas assez d'expérience, parce qu'ils étaient trop vieux, etc. Mais ce drame, ce sont les patrons qui en sont responsables, par leur avidité au gain. C'est aussi ce système qui ne conçoit le travail que comme un moyen de tirer du profit. Xavier Bertrand a mené la campagne des régionales en promettant 60 000 emplois et en critiquant l'inefficacité de Pôle emploi. Il a mis en place un numéro vert et une structure proche emploi. De nombreux travailleurs se sont précipités. Ils ont obtenu un rendez-vous pour expliquer leur situation et un conseil de s'adresser à Pôle emploi. Le gouvernement, lui, prétend s'attaquer au chômage en faisant la chasse aux emplois non pourvus. Devant l'acharnement que les patrons mettent à ne pas trouver de salariés disposant de la bonne qualification, on peut s'interroger sur leur volonté réelle. Par exemple, depuis quelques mois déjà, la SNCF n'est plus capable de faire circuler tous les trains car il n'y a pas assez de conducteurs. Elle prétend qu'elle n'arrive pas à trouver de personnes prêtes à se former et aptes à faire ce travail. Le manque de formation est une bonne excuse pour accumuler des stages gratuits, des périodes d'essai payées par l'assurance chômage. Les patrons profitent de ces circonstances pour combler le manque de personnel, obtenir des salariés gratuitement. Le gouvernement annonce que le chômage entame une timide décrue. Mais les chiffres de Pôle emploi ne confirment pas cette soi-disant amélioration. Autour de nous, nous voyons de nouveaux plans de licenciement. En plus de ceux que j'ai déjà évoqués, il y a l'annonce de la fermeture de l'aciérie de Beautort. Il y a tous ceux qui subissent des ruptures conventionnelles, ceux qui finissent par l'accepter car leur patron leur rend la vie impossible. Leur nom masque des plans de licenciement qui ne disent pas leur nom. Un plan avec des indemnités plus faibles et un calcul des allocations chômage plus défavorable. Pour ceux qui sont au travail, c'est au nom de la concurrence, de la compétitivité que les patrons imposent des conditions de travail de plus en plus dures. Avant même la loi El Khomri, de nombreux travailleurs étaient confrontés à des augmentations d'horaires, comme à GKN, où les semaines de 48 heures sont devenues courantes. Des modifications de contrats de travail pour adapter les horaires aux besoins de l'entreprise, comme à Soprocos ou Fapago, ou encore à la Rexim AAM, où la direction veut que l'ensemble du personnel passe en 5-8. Le patronat affirme que le rétablissement des marges est à la base de la reprise de l'emploi. Cela fait des dizaines d'années qu'il le dit, relayé dès 1981 par le gouvernement de gauche de François Mitterrand, qui expliquait que les licenciements d'aujourd'hui seront les emplois de demain. Et on a vu ce qu'il en était. Cela fait des années que les marges des entreprises sont rétablies et que les licenciements continuent. Au nom de cette satanée productivité, des milliers, des centaines de milliers de femmes et d'hommes ont perdu leur travail. Des millions d'autres ont sacrifié leur salaire, leurs jours de RTT, leurs conditions de travail pour que l'entreprise grappille quelques centimes sur le concurrent. Quel que soit leur secteur, l'automobile, les transports, la banque, tous les salariés sont soumis à une discipline de fer. C'est la chasse à chaque minute perdue pour la production, que l'on soit dans les bureaux, les usines ou le commerce. Alors oui, les travailleurs en produisent des richesses, ils en suent des profits et des milliards. Et où conduit cette accumulation de bénéfices et de dividendes? Eh bien, augmenter encore les exigences des capitalistes. Le rapport de force qu'ils sont parvenus à instaurer, grâce en particulier au taux de chômage, leur permet, par le chantage, d'imposer toujours plus de régressions. Le gouvernement de gauche a imaginé qu'il pourrait imposer un retour en arrière d'ampleur sur le Code du travail avec la loi El Khomri. Cette loi, 131 pages d'attaque contre les travailleurs, indigne et révolte nombre d'entre eux. Elle consiste à donner encore plus de droits au patronat. Ces derniers pourront imposer des réorganisations du travail, des heures supplémentaires moins majorées. Elle remet aussi en cause ce que les travailleurs ont obtenu en 1936 par la grève générale, à savoir le fait qu'un accord d'entreprise ne peut pas être inférieur aux accords de branche. Si la loi passe en l'état, elle permettra tous les accords locaux. Ce sera une démolition des droits collectifs. Chaque patron sera maître chez lui, comme cela l'était au XIXe siècle. Déjà, les témoignages de salariés de petites entreprises à qui on ne paye pas les heures, à qui on impose des vexations, des insultes, ne manquent pas. Cette loi encouragera encore davantage les patrons à aller dans ce sens. Elle représente aussi un permis de licencier, avec la modification des raisons justifiant les licenciements économiques et le plafonnement des indemnités prud'homales. Elle favorise le chômage en permettant aux entreprises de limiter le recours aux intérimaires, en allongeant la journée de travail, en ayant recours aux heures supplémentaires, aux samedis travaillés, etc. Cela fait maintenant plusieurs mois que des entreprises comme Fapagos ou Procos se sont donné cet objectif de limiter l'embauche d'intérimaires. Alors oui, c'est un comble pour une loi qui prétend lutter contre le chômage. Devant l'hostilité qu'a suscité son texte, le gouvernement a annoncé qu'il en repoussait sa présentation pour modifier à la marge quelques articles. Mais discuter de ce texte est inutile, car il n'y a pas une ligne à sauver. Il faut obtenir son retrait pur et simple. Le Parti socialiste, la droite et le Front national, bien qu'ils disent le contraire, sont solidaires de ces mesures contre les travailleurs. La droite lui reproche désormais de ne pas tenir le cap, car le gouvernement a réagi en défaveur de la population en reculant la présentation de son texte en Conseil des ministres. Le FN prétend que cette loi est imposée par Bruxelles. Il se place comme le champion de la défense des petits patrons et réclame des aides supplémentaires pour eux, exactement comme le Parti socialiste et la droite se servent du prétexte des difficultés des petits agriculteurs pour arroser ceux qui n'en ont pas besoin. Le Front national se fait le porte-parole des patrons des petites et moyennes entreprises qui reprochent au texte de ne pas pouvoir imposer les mêmes reculs que ceux qui seront menés dans les grandes entreprises. Mais les gesticulations des uns et des autres n'ont au fond que peu d'importance. Ce qui comptera, ce sera la réaction des travailleurs et leur capacité à descendre dans la rue, comme cela vient de se faire aujourd'hui. Alors ce rassemblement a été une première étape et il doit avoir une suite. Car cette loi s'attaque à tous les travailleurs, même les chômeurs. Car comme on l'a dit une travailleuse que nous avons rencontrée, et je la cite, « Si on peut imposer 60 heures de travail aux salariés, on n'est pas prêt de trouver du boulot. » L'accumulation de bénéfices et de dividendes encourage aussi le patronat à continuer à ponctionner l'argent public. Ce sont eux les premiers assistés. Chaque gouvernement les sert. Aux quelques 200 milliards déjà distribués, le gouvernement Valls a rajouté 41 milliards dans le cadre du pacte de responsabilité. Localement, nous avons les zones franches. Et nous avons vu des entreprises qui se sont déplacées de quelques mètres pour pouvoir profiter de cette aubaine, avec au mieux quelques embauches, mais le plus souvent, la fermeture d'une autre unité un peu plus loin. Et puis, il y a un autre aspect à l'accumulation des bénéfices. Les milliards que les capitalistes extraient de la production et de l'exploitation des travailleurs sont détournés vers la finance, la spéculation, qui offre toujours de meilleurs débouchés. Autrement dit, Plus les travailleurs triment et produisent des richesses, plus leurs conditions de travail et de vie se dégradent et plus la spéculation grandit. À tel point que les gouvernements et l'armada de spécialistes à leur service ou à celui des capitalistes craignent en particulier que l'éclatement de la bulle spéculative affecte le système bancaire comme cela s'est produit en 2008 en engendrant une dégradation encore pire que celle que la société avait alors connue. Face à ce risque, les gouvernements ne peuvent rien. Mais la bourgeoisie, elle non plus, ne peut rien. Car ce sont les lois folles du profit et de la concurrence qui s'imposent. Cette économie, aussi injuste qu'irrationnelle, représente un gâchis sans nom. Et c'est bien cela qui nous convainc qu'il faudra passer par un changement de système économique. Nathalie Alexandra. À chaque élection, les différents candidats vantent leur mérite personnel, leur attache locale et proposent leur catalogue de bonnes idées et de solutions. Le successeur de Xavier Bertrand, Julien Dive, a déclaré au courrier Picard que, et je le cite là, « les Français retrouveront le goût pour la politique une fois qu'ils y retrouveront des gens comme eux qui ont connu des galères. Ça leur évitera de se tourner vers les extrêmes. » Alors je pense que vous êtes tous reconnus dans ce parcours de jeunes premiers de la politique qui travaillent dans un pôle de compétitivité de surcroît. Ces propositions, par exemple, la baisse des charges et la poursuite des mesures prises par tous les gouvernements depuis 30 ans, mais en prétendant, je le cite encore, imposer au gouvernement d'alléger les charges et de simplifier les démarches administratives, il ne dit pas où il trouvera l'argent pour financer ses nouveaux cadeaux au patronat. La candidate socialiste se présente, alors je la cite aussi, comme la bonne personne au bon moment. Car, dit-elle, le député doit être multiple, il doit pouvoir se mettre dans la peau d'un agriculteur, d'un artisan, d'un jeune à la recherche d'un travail et incarner les problématiques. En tout cas, lorsqu'elle explique par rapport au gouvernement, et là je la cite encore, il y a des remous en son sein qui ne me plaisent pas, certes, mais il y a beaucoup de mesures qui vont dans le bon sens, elle va avoir du mal à convaincre les électeurs qu'elle peut incarner leurs problèmes en défendant les mesures du gouvernement qu'ils rejettent. Finalement, son seul argument est « si vous ne voulez pas du Front National, il faut rassembler la gauche et tous voter pour le Parti Socialiste ». Voilà comment l'exprime Jean-Jacques Thomas, maire socialiste d'Hirson. Donc pareil, je le cite, « et sous prétexte que le gouvernement n'est pas suffisamment en gauche, en s'abstenant, certains électeurs vont favoriser la droite et l'extrême droite. Où est la cohérence politique ? Depuis décembre, nous connaissons les conséquences de ce type de positionnement. Plus que jamais, le vote utile, c'est Anne Ferreira, et si nous voulons que la gauche agisse à l'Assemblée, il suffit de voter pour elle. » Opérons notre remaniement local. Alors, il ne demande pas à la population d'être d'accord avec la politique du gouvernement, mais de se forcer à l'approuver pour ne pas vivre pire. C'est justement cette politique qui pousse dans les bras du Front National des travailleurs qui n'en peuvent plus de ses représentants du Parti Socialiste. Et que dire de la décision du Parti Socialiste de ne pas se présenter au deuxième tour et d'inviter à voter pour Xavier Bertrand pour empêcher l'élection de Marine Le Pen à la tête de la région ? Eux-mêmes ne pensent pas avoir d'idées suffisamment différentes pour les défendre au deuxième tour. Alors pourquoi les électeurs les défendraient-ils ? Les deux candidats du Parti communiste présentent aussi leur promesse de s'occuper du sort de la population laborieuse. Pour l'un d'eux, c'est, je le cite, « un emploi pour tous avec un vrai salaire ». Mais comment pourrait-on obtenir cela ? Avec un député communiste supplémentaire ? Nous l'avons dit, les élus n'ont quasiment aucun pouvoir sur la situation. Le deuxième candidat affirme se présenter pour, je le cite, « porter la colère et les luttes populaires ». Mais leur référence est Georges Marchais, celui-là même qui, dans les années 70, a représenté la nouvelle orientation du Parti communiste vers le programme commun, c'est-à-dire l'alliance avec le Parti socialiste. Depuis cette époque, les dirigeants de ce parti reportent leur voix au deuxième tour, quand ce n'est pas au premier, sur les candidats du PS, avec le résultat que nous avons devant les yeux aujourd'hui. Ils en arrivent même à voter pour des listes de droite pour lutter contre l'extrême droite. Quelle confiance les travailleurs pourraient-ils avoir dans un parti qui leur désigne comme une perspective un gouvernement capable de proposer une loi de régression sociale encore plus dure que toutes celles qu'a fait passer la droite ? Comment faire confiance à un parti qui propose de sortir de l'Europe ou de sortir de l'euro, c'est-à-dire qui masque la responsabilité du patronat français ? Quant à la candidate du Front National, elle s'engage à voter pour toutes les lois pour la famille, la réindustrialisation, l'école, etc. Mais tous les gouvernements présentent les lois qu'ils proposent au vote des députés comme des lois au service de la population. Une des dernières en date, la fameuse loi El Khomri, ne contredit pas cela. Tous affirment et ont affirmé que leurs plans d'aide au patronat sont des plans pour sauver les emplois, que leurs plans de redressement de la sécurité sociale sont faits pour la sauver, même si la seule solution proposée est de faire porter l'effort sur la population laborieuse. Mais les raisons que le Front National invoque pour expliquer la situation, c'est l'immigration. Comme si c'était les immigrés qui fermaient les entreprises, qui licenciaient, qui provoquaient une crise agricole. La crise des migrants est dramatique. Des travailleurs de la région ont été directement concernés et pour beaucoup touchés lorsque des policiers sont venus arrêter des jeunes migrants dans la cour de l'usine de Malheur Système à Sébancourt. Ces jeunes étaient rentrés dans le camion d'un chauffeur croyant que celui-ci se dirigeait vers l'Angleterre. Alors un certain nombre d'électeurs des classes populaires pensent voter pour le Front National car on ne l'a pas essayé, disent-ils. Mais n'exprimons pas ce dégoût en servant de marchepied à des politiciens qui se présentent nouveaux, mais qui défendent les mêmes intérêts que leurs prédécesseurs et rêvent de devenir à leur tour les larbins des patrons. Il n'est pas nécessaire de les voir à l'œuvre pour l'affirmer, car nous pouvons nous appuyer sur le fait que ces prétendants au pouvoir font semblant de compatir à la dégradation de la situation, mais ils n'en dénoncent pas les responsables, ils ne mettent pas en cause ce système. À aucun moment le Front National ne s'attaque à la bourgeoisie. Non, il rend responsable de la situation les politiciens qui sont aux affaires, des politiciens qu'il rêve de remplacer. Il se prépare à servir la grande bourgeoisie de la même façon que les autres. Alors, ne laissons pas ces pantins recommencer éternellement leur comédie. Servons-nous de notre droit de vote pour exprimer notre dégoût de la politique actuelle. Et c'est en votant pour le camp des travailleurs que ceux qui s'apprêtent à s'abstenir exprimeront réellement ce sentiment que nous sommes nombreux à partager. Voter pour lutte ouvrière permet d'affirmer son sentiment d'appartenance au camp des travailleurs que tout oppose aux capitalistes et à tous les gouvernements à leur service. Il permet de désavouer la politique du gouvernement du point de vue des intérêts du monde du travail. Voter lutte ouvrière, c'est affirmer que nous avons conscience que notre sort ne changera pas avec les élections. C'est affirmer sa confiance dans la force collective de la classe ouvrière pour défendre ses conditions d'existence et mettre fin à cet ordre social. Donc votez lutte ouvrière pour faire entendre le camp des travailleurs.